Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une nourriture gratuite à disposition et bénéfique pour la santé. Pourtant, dans certaines régions de la planète, l'allaitement maternel est de moins en moins populaire. Pas question ici de juger un choix individuel des femmes, mais de parler de santé publique. Et justement, l'OMS souligne les bienfaits de l'allaitement maternel et recommande même une alimentation exclusive au sein durant les 6 premiers mois de la vie du bébé. L'allaitement maternel permet de réduire le taux de mortalité infantile, de limiter la malnutrition, les retards de croissance et de développement des bébés. Mais il existe de nombreux freins, des blocages culturels, le manque de confiance, une mise au sein parfois complexe ou simplement la reprise du travail pour les femmes. Avec nous en studio, docteur Béatrice Duberne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre dans le service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, également membre du groupe francophone des pathologies gastro-entérologie et nutrition pédiatrique. Nous retrouverons en ligne de Dakar Mariam Fall, sage-femme d'État, présidente de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique centrale et de l'Ouest au Sénégal. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à réagir au sujet du jour. Vos questions au 33 1 84 22 75 75. Docteur Béatrice Duberne, l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. On l'a dit, recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, recommandation. Pourtant, moins de la moitié, 40% des bébés du monde en bénéficient. Comment l'expliquer ?
Alors, c'est difficile. En tout cas, dans les pays occidentaux, je pense que le frein principal est la reprise du travail, avec très peu de choses faites dans le monde professionnel pour permettre la poursuite de l'allaitement maternel, la reprise d'une activité professionnelle. Alors que finalement, c'est possible. On peut tirer son lait, par exemple, le conserver, ou bien avoir des temps. Dans certaines entreprises, il y a des temps dédiés à l'allaitement maternel où la mère, s'il y a une crèche sur place, peut se déplacer. Mais bien sûr, ça n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et donc, très souvent, en fait, on sait qu'en moyenne, dans les pays occidentaux, c'est maximum 4 mois d'allaitement.
Ça dépend du congé maternité, tout simplement.
Ça dépend du congé maternité, exactement. Donc ça, c'est le premier frein. Ensuite, le deuxième frein, c'est les difficultés de l'allaitement maternel, parce que même si c'est parfait, très adapté au nourrisson, ce n'est pas simple, surtout pour une maman qui allaite son premier enfant. Et l'allaitement paternel nécessite quand même de savoir comment faire, un certain savoir-faire, et on peut être très vite découragé parce que les premiers jours peuvent être difficiles. Ensuite, il y a peut-être des freins culturels aussi, avec la promotion des biberons, en disant que c'est meilleur pour la santé. Or, à ce jour, il n'y a aucun lait infantile qui est aussi équivalent en termes de bienfaits que le lait maternel.
Il y a d'ailleurs une réglementation sur la publicité pour ce lait des premiers mois. Tout ça est régenté. Vous parliez tout à l'heure du conseil, peut-être aussi du fait de l'évolution de la société, moins de proximité entre les générations, moins de conseils peut-être de la mère à ses filles qui vont un jour allaiter.
Tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de transmission qui est très importante dans l'allaitement. C'est-à-dire que si on a soi-même allaité avec succès, probablement qu'on aura une idée beaucoup plus positive de l'allaitement qu'on pourra transmettre à nos enfants. Mais ça, c'est propre à chaque femme, propre à chaque famille. Il faut le respecter. En tant que pédiatre, c'est vrai qu'on fait la promotion de l'allaitement maternel et on essaie au maximum que les femmes allaitent le plus longtemps, si possible 4 mois, idéalement 6 mois. Mais quand on a face à nous une maman très fatiguée, désespérée, qui n'y arrive pas, je crois qu'il faut accepter et dire vous passez au biberon.
Et puis simplement, il y a des femmes qui n'en ont pas envie.
Aussi.
Et puis, il y a aussi des structures hospitalières, des cliniques où un effort n'est pas forcément consenti, investi à ce mode d'alimentation des nouveau-nés.
Tout à fait. On a quand même l'impression, on travaille beaucoup nous en tant que pédiatres là-dessus, mais il y a dans beaucoup de maternités cette idée qu'il faut que la maman se repose, on met le bébé à l'écart la première nuit et on lui donne le biberon. Et ce sont les femmes qui veulent allaiter qui doivent dire attention, non, moi je veux mon nouveau-né avec moi, pour l'allaiter d'emblée. Donc il y a cette, effectivement cette culture du biberon dans les premières semaines, hors des premiers jours, les premières heures. Et or, on sait que l'allaitement maternel, c'est d'emblée et qu'il faut vraiment s'y accrocher dès les premières heures.
Alors on va commencer par parler, si vous le voulez bien, de ce produit, le lait maternel. D'abord parler des bénéfices pour les nouveau-nés, docteur Béatrice Duberne. D'abord, hein, pour favoriser cette croissance si importante les premiers mois.
Alors, l'allaitement maternel, en termes de composition, est absolument parfait et adapté aux besoins du nouveau-né, en termes de protéines, de lipides, donc de glucides, enfin de fer. Il y a exactement ce qu'il faut pour les nouveau-nés. Et la particularité, c'est qu'en fait, la composition du lait va évoluer au cours des semaines et s'adapter aux besoins du nouveau-né et du nourrisson. Donc, ce qui est absolument parfait et qui permet de dire que c'est l'aliment idéal pour tous les nouveau-nés. Ensuite, l'autre intérêt va être sur la lutte des infections, puisqu'on sait qu'il y a des anticorps en fait dans le lait, des anticorps maternels et puis d'autres, des immunoglobulines qui permettent de lutter contre les infections, ce qui protège le bébé en fait, notamment des virus, des gastro-entérites aiguës, des bronchiolites, enfin de tous les virus, même s'ils ne sont pas digestifs.
Justement, ces maladies qui peuvent causer justement des affections très graves chez les bébés, deux causes majeures, hein, diarrhée, pneumonie, donner son lait, ça protège, pas de tout, mais au moins ça protège de ça. Et pourquoi on dit aussi que l'allaitement maternel, docteur Béatrice Duberne, réduit les risques d'allergie?
Alors en fait, ça c'est quelque chose qu'on a mis en évidence ces dernières années, puisque vous savez qu'il y a en tout cas dans les pays occidentaux de plus en plus d'allergies alimentaires. Et il y a un certain nombre d'études qui ont montré que lorsque les enfants étaient allaités exclusivement au moins 4 mois, voire même 6 mois, eh bien il y avait une diminution du risque d'allergie. On pense que c'est par le passage de protéines, enfin de substances dans le lait maternel qui passe dans le tube digestif de l'enfant et qui va faire que ce tube digestif mature et réagit moins aux allergènes.
Alors, on peut aussi évoquer les bénéfices pour les mères qui allaitent. On pointe souvent la réduction des risques de cancer féminin.
Alors effectivement, il y a un lien entre la réduction du cancer du sein notamment et l'allaitement maternel. Ça, c'est un lien statistique qui a été mis en évidence, effectivement. Et aussi avec les autres cancers gynécologiques, mais en particulier le cancer du sein.
Alors pour les mamans qui respectent un allaitement exclusif, hein, certains mettent en avant le caractère, les vertus entre guillemets contraceptives de l'allaitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y a cette méthode qui s'appelle MAMA, c'est une méthode de l'Organisation Mondiale de la Santé, méthode de l'allaitement et de l'aménorrhée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en fait, comment ça fonctionne l'allaitement? C'est-à-dire que quand le nourrisson va téter le mamelon, il y a un signal qui est envoyé au cerveau de la mère, hein, qui dit attention, allaitement maternel, et qui va en théorie arrêter l'axe qui contrôle en fait les règles. Voilà, ça passe par une hormone qui s'appelle la prolactine et qui va effectivement envoyer un signal au cerveau en disant arrêt des règles. Alors effectivement, on dit l'allaitement maternel est un bon moyen de contraception. Oui, c'est vrai sur le papier, mais il faut que ce soit un allaitement maternel extrêmement strict avec des tétées exclusives, régulières, pas de diversification, pas de biberon, pas de tétine.
Et pas d'eau.
Pas d'eau, que le sein. Et des tétées régulières. Donc il faut être vigilante. Oui, ça marche, mais il faut être vigilante. Dès qu'on voit que les tétées sont moins fréquentes et moins importantes, il faut se méfier. Et surtout, si on a l'apparition de règles, alors là, ça veut dire que ça ne marche pas.
Ce qu'on appelle communément le retour de couche.
Exactement.
Alors, si vous le voulez bien, docteur Béatrice Duberne, vous restez avec nous. Nous allons maintenant donner la parole aux auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et la première de ces auditrices, c'est Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso. Votre témoignage tout de suite.
Ok, donc en fait je suis une maman d'un garçonnet de 7 mois et j'ai pu faire l'allaitement exclusif uniquement au sein jusqu'à 2 mois et demi. Et lorsque le congé de maternité est fini, j'ai dû reprendre Voilà, mais j'ai pratiqué l'allaitement mixte avec le biberon. Mais une fois à la maison, plus le biberon, uniquement le sein. Voilà, donc en résultat, j'ai un bébé en bonne santé qui grandit bien. Et pour ma part, j'adore allaiter parce que je vois bien que l'enfant, il aime ça. Et le lien qui se crée entre nous, vraiment, il est très fort. Donc pour ma part, c'est tout bénef, l'allaitement maternel.
Docteur Béatrice Duberne, là, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué directement. C'est la relation affective, ce lien si précieux qui se perpétue à l'occasion de l'allaitement, de la mise au sein.
Oui, c'est vrai que c'est un élément très important du fait du contact cutané, de cette façon de surveiller de surveiller son bébé, de regarder son bébé, de le positionner, de le couver. Effectivement, c'est un lien très très fort. Après, avec un biberon, si on est très attaché à son bébé, on peut l'avoir aussi, hein, si on regarde son bébé au biberon, etc. Mais c'est vrai que le contact de la peau, on le sait, hein, pour le développement des bébés, est très très important. Et certains bébés qui continuent à téter juste pour faire un câlin à leur maman. Hein. Ils n'en ont pas vraiment besoin sur le plan de l'alimentation.
Pascal, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on remarque dès qu'on parle de l'allaitement. On dirait qu'il faut systématiquement mettre en concurrence le biberon, le sein. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir une cohabitation pacifique? On ne parle pas des 6 premiers mois, ces recommandations, mais après, c'est comme s'il fallait que l'un soit meilleur que l'autre soit meilleur que l'un. En fait, tout ça peut se passer en parfaite harmonie, docteur.
Tout à fait. Actuellement, les laits infantiles qui sont proposés pour les nourrissons sont vraiment de bonne qualité, extrêmement bien contrôlés. Les industriels essayent au maximum de reproduire la composition du lait maternel. Il y a beaucoup de recherche hein, là-dessus pour se rapprocher, même ils y arrivent, hein, ils font le maximum. Et finalement, des bébés qui n'ont pas été allaités, qui sont uniquement biberons, vont très très bien. Donc on peut tout à fait déculpabiliser les mamans en disant voilà, vous pouvez maintenir 2 tétées, une tétée le matin, une tétée le soir quand vous revenez du travail, et le reste de la journée votre enfant a des biberons. Et de toute façon, à partir de 6 mois, il va y avoir la diversification, l'enfant va aussi manger d'autres choses, donc c'est complémentaire.
Même si dans certaines régions du monde, il faut souligner, il y a les règles d'hygiène et il y a l'accès aussi à une eau de bonne qualité et bien évidemment le respect des proportions, parce que le lait, il faut mettre tant de doses pour tant d'eau, cette question cruciale, c'est une eau saine pour les bébés.
Tout à fait, il faut vraiment une eau idéalement minérale. Alors, dans les pays occidentaux, on peut utiliser l'eau du robinet si on est sûr que la composition est bonne, mais si on n'est pas, absolument pas sûr de la qualité de l'eau, il faut utiliser de l'eau en bouteille, de l'eau minérale, bien sûr, c'est important pour éviter les infections.
Alors, autre témoignage, autre auditrice, elle est en ligne de Brazzaville, c'est Jélika. Jélika, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre témoignage, Jélika.
Alors, c'est simple. Alors, je suis maman de 3 enfants et j'atteins 4e. J'ai allaité mes enfants au biberon et au sein. Donc, le tout premier, je l'ai allaité de 0 à 6 mois. Le second, je l'ai allaité à partir de 1 mois et demi parce qu'il n'arrivait pas à tirer. Donc, je l'ai allaité à partir de 1 mois et demi. Jusqu'à 6 mois, mais c'est le troisième que j'ai allaité de 0 à 13 mois. Et alors, encore, il ne voulait pas arrêter. Donc, j'ai dû le sevrer. Parce que c'est vrai que j'avais toujours du lait qui sortait. Il préférait se rassasier au sein que le biberon, parce qu'il a arrêté le biberon à 5 mois. Mais il a préféré le sein.
Docteur Béatrice Duberne, cette question du sevrage, hein, beaucoup de mamans se la posent. Est-ce que je dois donner le sein tant que le bébé demande, ou à un moment donné, bien, il faut s'arrêter parce que la vie le demande, ou même l'alimentation simplement du bébé le réclame également?
Alors, c'est une bonne question que beaucoup de mamans se posent. À quel moment sevrer? Je pense que jusqu'à 1 an, les bébés ont besoin d'un apport de lait le matin, le soir. Donc, jusqu'à 1 an, qu'ils aient une tétée ou un biberon le matin et le soir, ça ne pose aucun problème. Donc finalement, le sevrage, ça va être décidé par qui? Par l'enfant, qui peut décider d'arrêter le sein. Ça arrive parfois, hein, des enfants qui ne veulent plus du sein, et les mamans le disent bien. Et ça peut être aussi la maman qui souhaite arrêter. Donc quand on a passé la période des 6 mois, je pense qu'on peut envisager le sevrage si on le souhaite. Et finalement, essayer le biberon. Mais il ne faut pas être déstabilisé par le fait que le bébé ne veuille pas du biberon. En fait, la technique de tétée est extrêmement différente hein, entre un allaitement maternel et un biberon, et donc très souvent les enfants ont énormément de mal à être sevrés. Donc il faut être persévérante, il faut y croire. Si on n'a pas envie de sevrer, je crois qu'il ne faut pas sevrer tant qu'on reste dans un allaitement maternel adapté. Et si on est prête, bah, il faut un petit peu forcer, et souvent ça se passe bien.
Angélica, vous disiez que vous attendez votre 4e bébé. Et vous avez un projet d'allaitement également avec ce futur bébé?
Oui, je souhaiterais toujours allaiter de façon normale. Par contre, je voulais savoir s'il y avait un moyen d'avoir une meilleure production de lait. Est-ce qu'il y a un traitement particulier? Est-ce que je dois faire quelque chose? C'est vrai que je n'ai pas, c'est-à-dire ça, je produis bien du lait, mais j'aimerais que ça donne un peu plus.
Mais jusque-là, les autres enfants avaient suffisamment de lait, votre lait était de bonne qualité, pourquoi vouloir changer?
En fait, mon lait était de bonne qualité, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment, parce que mon troisième, par exemple, a arrêté de lui-même le biberon à 5 mois. Et je trouvais que je ne produisais pas suffisamment. J'avais l'impression de ne pas assez produire parce que le petit, il tétait à tout moment, à chaque heure. Il dormait même avec le sein dans la bouche.
C'était peut-être le câlin qu'il recherchait.
Et jusqu'à l'âge de 1 an. Oh, la chaleur, il en avait à tout moment, de tout le monde, mais lui, il a tété, mais tété pour bien manger. Et il n'a pas mangé les petits pots des petits enfants de son âge. Lui, il a mangé directement l'alimentation. Il a pris l'alimentation des grandes personnes directement à 5 mois.
Docteur Béatrice.
Il n'a rien pour. Donc voilà pourquoi je voulais savoir s'il y avait un moyen ou un traitement pour avoir un peu plus de lait pour que je puisse peut-être utiliser peut-être un tire-lait pour mettre dans le biberon et puis aller travailler, revenir et puis pour avoir une meilleure production. J'ai des seins qui sont très petits mais qui produisent beaucoup. Et je voudrais bien que ça soit un peu plus pour celui qui arrive.
Docteur Béatrice Duberne, il y a un certain nombre de femmes, hein, d'ailleurs, qui se posent des questions très concrètes sur la taille de leur poitrine et la production de lait. Pas de corrélation?
Aucune corrélation. En fait, ce qu'il faut, c'est ce sont les canaux hein, galactophores qui doivent être présents. Et le volume de la poitrine n'a rien à voir. C'est souvent de la masse grasse hein, qui fait qu'on a une poitrine volumineuse. Donc, ça n'a aucune corrélation. Il peut y avoir une meilleure production de lait sur des petits seins, donc vraiment rien à voir. Après, sur la façon de stimuler la production de lait, en fait, il n'y a que la mise au sein qui va stimuler, puisqu'en fait, plus il y aura une mise au sein, plus le circuit va être en route et plus le lait sera produit, en fait. Et c'est toute la difficulté où finalement, on a l'impression que l'enfant ne boit pas assez, se fatigue, mais il faut essayer de s'accrocher et de se dire, il faut que je le mette au sein beaucoup plus régulièrement. Alors, l'autre moyen de le faire, c'est de tirer le lait, madame a raison. On peut tirer son lait régulièrement au cours de la journée pour maintenir finalement la lactation et augmenter le volume. Après, tout ce qui est médicaments, je n'en connais pas, hein, de médicaments qui, voilà, on parle de levure de bière, etc. Tout ça, c'est plutôt des légendes. Ce qui est important, c'est de se reposer et boire beaucoup, en revanche.
Et vous disiez tirer son lait, mais bien conserver le lait au frais jusqu'à ce qu'il soit donné au bébé. C'est très important.
Oui, c'est un maximum, donc c'est au frigidaire, maximum 24 heures. On peut sinon le congeler. Ça peut se faire. Si on a un congélateur, on peut congeler son lait, c'est-à-dire tirer son lait, le mettre dans un biberon directement, rapidement, disons, le mettre au congélateur, et là, on peut le garder plusieurs semaines. Mais si on l'utilise dans la journée, c'est maximum 24 heures.
Et faire attention, donc, pour éviter la prolifération de bactéries pour le bébé. Là, on pourrait rendre malade le bébé si le lait était conservé dans de mauvaises conditions. On va continuer hein, de parler de l'allaitement maternel. On évoquera notamment l'aspect économique, hein, parce qu'il faut le dire, dans certaines régions, le lait en poudre, eh bien, ça coûte cher. L'allaitement maternel, c'est gratuit. Il faut que la maman se nourrisse bien. On va en parler encore avec vous, docteur Béatrice Duberne. On se retrouve dans 3 minutes, hein, juste après les informations. Et vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. On se retrouve dans une poignée de secondes.
Priorité santé. Caroline Paré.
Merci donc de nous retrouver pour cette seconde partie de Priorité Santé, consacrée donc à l'allaitement maternel. Avec nous, toujours en studio, docteur Béatrice Duberne, pédiatre dans le service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Béatrice Duberne, on a évoqué dans la première partie de l'émission les aspects bénéfiques de cet allaitement maternel, quelques conseils aussi. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, hein. Tout à l'heure on parlait de l'attachement, de ce lien qui se crée de la mère à l'enfant. Est-ce qu'on a étudié l'impact justement de l'allaitement sur le bien-être mental de la mère par rapport à ce qu'on appelle le baby blues, la dépression postpartum? Est-ce qu'il y a justement une tendance à voir si certaines femmes se sentent plus attachées à leur nourrisson que d'autres, ou il n'y a pas d'études vraiment sur ce point de vue-là, d'un point de vue psychologique?
Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûre qu'il y ait de lien finalement entre le fait d'allaiter son enfant et la fréquence du baby blues. Parce que finalement, le baby blues, c'est un autre mécanisme. Hein. C'est plus en rapport avec la chute des hormones, une fragilité maternelle, etc. Et parfois, le fait d'allaiter peut un petit peu, comme c'est quand même relativement fatigant, peut finalement, pas précipiter, mais enfin accélérer les choses sur une maman un petit peu fragile. Donc, il n'y a pas obligatoirement et sûrement pas moins de baby blues si on allaite son enfant. Ensuite, en revanche, l'allaitement maternel a vraiment quelque chose de très positif sur la relation mère-enfant, même si on peut l'avoir si on donne des biberons à son bébé. Par contre, ce qui est bien établi, c'est sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien entre allaitement maternel et le développement psychomoteur de l'enfant, et possiblement le quotient intellectuel par la suite. Mais ça, pour l'enfant, c'est vraiment bénéfique.
Avec la première heure, on en parlait tout à l'heure, docteur Béatrice Duberne, on va reparler de ce fameux colostrum, hein, ce premier liquide avant la montée de lait à proprement parler. C'est jaunâtre, il y en a très peu en fait. Il faut insister là-dessus, le colostrum, c'est un aliment, on peut dire, exceptionnel. Hein. C'est un peu la potion magique du bébé.
Oui, c'est la potion magique. C'est vraiment les premières sécrétions au niveau du lait, et c'est largement suffisant pour ce bébé qui vient de naître. N'oublions pas que pendant 9 mois, ce bébé est nourri par le sang. Il va naître, et donc là, il y a plein d'adaptations de son métabolisme, et il va être amené à manger par le tube digestif. Et donc, ce colostrum est parfaitement adapté à ce tube digestif.
Et d'ailleurs, chez les mamans, il y a souvent une inquiétude, c'est de dire, il y en a peu, mon bébé va avoir faim. Et d'ailleurs, tout à fait normalement, le bébé perd du poids les premiers jours, il va les regagner ensuite.
Exactement, c'est tout à fait normal. Déjà, il perd un petit peu d'eau. Et ensuite, cette perte de poids est liée finalement tout au temps où la lactation se met en place. C'est ce qu'on appelle la montée de lait. C'est un processus qui va apparaître dans les 24-48 heures après la naissance. Donc, il faut patienter, c'est normal. Il y a le colostrum, on met son bébé au sein, la montée de lait arrive, et là après le processus se met en place, et le bébé va commencer à augmenter ses quantités, boire de plus en plus, et récupérer son poids de naissance.
Alors le colostrum, on va en reparler, hein, dans certaines régions du monde, il y a d'ailleurs des idées fausses qui circulent sur le colostrum, pensant qu'il est sale, qu'il est jaune, que c'est du lait tourné, on l'a compris, hein, c'est pas du tout le cas, c'est d'ailleurs pas la seule croyance erronée liée à l'allaitement maternel, on va y revenir.
Priorité santé sur RFI.
Et on parlait en début d'émission des recommandations de l'OMS pour un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Alors ce que l'on constate, c'est que sur la planète, seuls 23 pays observent vraiment cette incitation. 23 pays, taux d'allaitement supérieur à 60%. Je vais faire une petite énumération si vous le voulez bien. En Asie, il y a le Cambodge, le Népal, le Sri Lanka. En Amérique latine, la Bolivie et le Pérou. Sur le continent africain, c'est surtout l'Afrique australe qui est concernée, également l'Afrique de l'Est, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, Rwanda, Érythrée, et au sud, le Lesotho, le Malawi, Swaziland, Zambie. On est maintenant en ligne avec le Sénégal, avec nous, Mariem Fall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme d'État à Dakar, présidente de la Fédération des associations de sage-femmes d'Afrique centrale et de l'Ouest au Sénégal. Quelle proportion de mères allaitent leur bébé dans votre pays?
En fait, d'après les estimations, merci d'abord de l'invitation que vous me faites.
Avec
par
plaisir.
Par rapport à cet allaitement maternel, je pense que en fait, les dernières estimations montrent qu'en fait, nous sommes en bonne progression. Mais quand même, on n'a pas atteint le seuil de performance requis. Et par rapport à ça, on peut se dire que nous sommes entre 33 et 53.
Entre 31 et 50%, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui. Et comment, oui, comment se passe le conseil, entre guillemets, à l'allaitement? Vous êtes sage-femme, vous êtes donc en première ligne lorsque le bébé vient au monde. Est-ce que le bébé est donné directement au sein de la maman, directement placé sur son ventre pour stimuler la lactation?
Oui, en fait, comme vous le savez, c'est un package. Il y a le package anténatal déjà qui préconise et qui parle de l'allaitement maternel au futur moment. Comment le faire? Mais ce qu'il y a en salle d'accouchement, on va insister beaucoup sur la mise au sein précoce dans l'œuf qui tue l'allaitant. Et donc, par rapport à ça, si même la sage-femme elle est débordée, elle a toujours quelqu'un d'autre à côté pour pouvoir aider la mère à la mise au sein précoce. Cependant, nous avons toujours quelques obstacles liés aux difficultés. Qui voudrait savoir pour mettre le bébé au sein, qu'on puisse lui donner de l'eau bénite et qui parfois tarde à venir. Mais quand même, des sensibilisations ont été réalisées et que la plupart des mamans actuellement acceptent cette mise au sein dans leur tissu là.
Et est-ce que la campagne justement d'information, de sensibilisation permet de chasser ces idées fausses? Comment expliquer qu'on veuille donner de l'eau avant de donner du lait au bébé? Pourquoi?
En fait, comme vous le savez, le Sénégal est à 99% musulman. Et donc, on pense qu'avec l'eau bénite, surtout mélangée avec du lait de vache, peut rendre l'enfant plus intelligent, parce que du lait de chèvre, excusez-moi, pourrait rendre l'enfant plus intelligent. Et l'eau bénite aussi, qui est le Coran, pourrait faire que cet enfant soit un bon musulman. Donc, ce sont ces représentations que les gens avaient depuis longtemps. Et dans la famille, traditionnellement, c'est un marabout qui le faisait pour toute la famille. Et donc, on attendait ce marabout pour qu'il le fasse. Et comme en Afrique, l'anticipation n'est pas souvent préconisée, on n'écrit pas ce talisman avant. Donc, il faut que l'accouchement se déroule pour qu'on aille chercher pour quelqu'un pour l'écrire. Mais il faut se dire que les mentalités ont beaucoup évolué. Et il y a eu des journées de l'allaitement maternel. En dehors de ces journées de l'allaitement maternel, dans les formations de base, comme dans la formation continue, parce qu'on parle de l'allaitement maternel, maintenant, dans les médias, on en parle. Au niveau de toutes les organisations féministes, on parle du bienfait de l'allaitement maternel, mais aussi en salle d'accouchement, avec l'accompagnement, et surtout avec l'accouchement humanisé actuellement au Sénégal. Quand il n'y a pas de contraction, mais rien du tout, la femme est défendue. Déjà, on commence à lui parler de l'allaitement maternel, de ses bienfaits, afin qu'elle accepte la mise au sein précoce dans leur tissu, notamment par rapport à ses bénéfices.
Merci beaucoup Mariem Fall. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État à Dakar, présidente de la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique centrale et de l'Ouest au Sénégal. Nous excuse pour la mauvaise qualité technique de la ligne. On a entendu, hein, docteur Béatrice Duberne, ses idées fausses sur l'alimentation des premières heures. Et c'est d'autant plus important que si on donne un autre élément alimentaire au bébé, même de l'eau, cela peut freiner la lactation.
Tout à fait. C'est vraiment la mise au sein qui, très précoce, qui va permettre que le processus se mette en place. Et donc, le colostrum est vraiment le lait le plus adapté pour dans les premières heures de vie d'un bébé. Donc, il faut surtout pas avoir peur de ça, même si effectivement, il est plus épais, il est beaucoup plus jaune. Il faut surtout pas du tout avoir peur et il est complètement adapté au nouveau-né.
Hein? Quelque chose d'impressionnant, c'est ce dont vous nous parliez en première partie d'émission, c'est cette transformation de la composition du lait en fonction du temps, de l'âge du bébé. Comment ça se passe? Il y a une connexion directe entre le cerveau, entre cette machine à produire du lait?
Exactement, il y a une connexion et en fait la production du lait, vraiment la teneur, d'ailleurs au cours des tétés, au cours de la journée, la teneur va changer, par exemple la teneur en glucides, la teneur en lipides. Si on analyse le lait entre la tétée du matin et la tétée du soir, la composition est différente. Et finalement, sur l'ensemble de la journée, ça va permettre de répondre aux besoins du nourrisson. Et puis peut-être ce dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi le passage de l'alimentation de la mère. Et c'est vrai qu'en fonction de l'alimentation de la mère, ça va aussi apporter d'autres aliments, d'autres goûts, ce qui va aussi adapter l'enfant à l'alimentation de son environnement.
Parce que tout à l'heure, on avait une question d'une auditrice justement sur qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus de lait. Simplement, la question, c'est peut-être qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir du lait de bonne qualité et que la mère aussi reste en bonne santé sans avoir de carence.
Oui, alors il faut manger de tout. C'est avoir une alimentation vraiment diversifiée. Non en excès, alors l'adage il faut manger pour deux parce que je suis enceinte ou j'allaite, non, il faut manger normalement. Par contre, il faut vraiment s'assurer d'avoir suffisamment de protéines, c'est-à-dire de viande, poisson, etc., de produits laitiers, parce que dans le lait, il y a énormément de calcium, le bébé a besoin de calcium, et donc si la mère ne mange pas suffisamment de produits laitiers, il risque d'y avoir des carences en calcium. Pareil pour le fer, le lait maternel est assez pauvre en fer, donc il faut manger du fer. Donc finalement, avoir une alimentation normale, diversifiée. En revanche, il y a des choses à proscrire, comme l'alcool, ce genre de choses. Il ne faut pas boire et faire attention aux médicaments qui passent dans le lait.
Si vous le voulez bien, docteur Béatrice Duberne, on va prendre une autre auditrice en ligne. Elle est à Lomé, au Togo. C'est Ornella. Ornella, bonjour.
Bonjour.
Votre témoignage.
Bon, moi, déjà, j'ai un bébé de 14 mois que j'allaite encore. Et à la base, j'avais pas l'intention de le faire, en fait. Et c'est par rapport au témoignage de ma grande sœur que je me suis mise à l'allaitement. Et jusqu'aujourd'hui, je le fais. Je prends plaisir, c'est vrai, mais bon. Et ma préoccupation, c'est que j'ai un peu peur. Parce que je me dis que si mon enfant tombe pas malade et tout, c'est à cause de mon lait, par rapport à tout ce que j'ai lu à propos de l'allaitement. Donc, je me dis, c'est à cause de mon lait que mon bébé tombe pas beaucoup malade. C'est à cause de mon lait qu'elle est forte. Du coup, j'ai un peu peur d'arrêter l'allaitement. Je sais pas.
Ornella qui repose cette question de la durée de l'allaitement. 14 mois, c'est peut-être le moment de passer à la diversification.
Alors, si c'est un allaitement maternel exclusif à 14 mois, effectivement, là, il faut penser à autre chose. Tout simplement parce que...
Il mange déjà du solide.
Elle mange. Oui.
Ah d'accord. Ok. Alors, écoutez, si il a votre bébé mange d'autres choses en plus de l'allaitement maternel, il n'y a pas de problème à poursuivre l'allaitement maternel. À 14 mois, les bébés ont besoin d'un apport lacté le matin et le soir. Ça peut être une tétée ou un biberon. Donc, si vous prenez du plaisir à allaiter votre bébé même à 14 mois, il n'y a pas de souci. Ensuite, si le fait de vous avez peur des infections, c'est vrai que ça le protège, mais cet effet de protection vis-à-vis des infections, c'est quand même plutôt les premiers mois. Là, je suis pas sûre que vous preniez un risque majeur en arrêtant l'allaitement maternel à cet âge-là. Donc voilà, c'est comme vous le sentez et comme votre bébé le sent, mais si vous y prenez du plaisir, vous pouvez continuer.
Merci beaucoup. Merci Ornella pour votre appel. Dans ce témoignage, ce qu'il y avait aussi, c'est quand elle parle de sa sœur qui l'a incité, c'est l'influence de l'entourage. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important, docteur Béatrice Duberne.
Oui, je pense que l'image de l'allaitement maternel dans la famille, dans les proches, est vraiment important. Si des femmes autour de la jeune femme qui se pose des questions ont eu des expériences positives avec l'allaitement, ça ne peut être que du bénéfice et vraiment d'essayer. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus allaiter sous la pression. C'est-à-dire si on sent qu'on ne se sent pas capable, qu'on n'aime pas ça, que c'est trop difficile, il faut accepter aussi de dire non, je n'allaite pas et je passe au biberon. Ce n'est pas une honte. C'est pas...
Malgré tout, il y a des femmes qui développent un sentiment d'échec quand elles n'arrivent pas, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles, des petits problèmes qui n'en sont pas quand on les vit. Par exemple, les crevasses, par exemple, des montées de lait très douloureuses. Là, les praticiens sont très importants.
Oui, là, il faut à ce moment-là, effectivement, essayer de s'entourer de gens de bons conseils. Quand les montées de lait sont très douloureuses, on peut faire... il y a des petits moyens, douche chaude, faire des massages des seins, tirer son lait du plus possible, en fait. Il faut tirer son lait pour désengorger les seins. Ensuite, quand il y a des infections comme des crevasses ou parfois des lymphangites, c'est vrai que ça peut mettre en suspens l'allaitement maternel, mais il faut essayer au maximum, ne pas se décourager et essayer de reprendre. En fait, c'est un processus qui peut redémarrer, en fait. C'est-à-dire que même si on réduit l'allaitement maternel pendant une période, très bien, si ensuite on a le courage de le faire et qu'on remet le bébé au sein régulièrement, ça va se remettre en route et on peut à nouveau avoir une montée de lait, enfin reprendre une production de lait. Donc, il faut essayer de ne pas se décourager, s'accrocher si on est vraiment motivé, mais C'est pas toujours simple.
Et puis une règle de base, c'est d'allaiter fatigant. Avec les deux seins alternativement.
C'est l'idéal, c'est l'idéal.
Dija appelle de Bamako. Bonjour, Dija. Dija, vous êtes avec nous en ligne du Mali. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Votre témoignage.
Oui, alors ma fille a 19 mois. Elle prend toujours sa tétée le soir et pendant la nuit. Je précise qu'elle ne prend qu'un seul sein parce que dès le début, elle refusait l'autre sein et j'étais également mal à l'aise dans cette position-là. Donc, nous avons adopté un côté. Et donc, je souhaiterais savoir s'il y a des risques à cette pratique-là.
Justement, c'est un sujet qu'on évoquait. En même temps, si ça marche avec votre bébé, on a envie de dire c'est un petit peu le bon sens, hein, docteur oui. Béatrice Duberne.
Tout à fait. Si ça marche avec un seul sein et qu'elle a suffisamment de lait avec ce sein-là, bah très bien, continuez comme ça. Hein. Le fait d'alterner les seins, c'est finalement pour désengorger les seins. C'est-à-dire qu'on sait qu'entre deux tétés, il y a la montée de lait. Et donc, on conseille d'alterner pour pouvoir désengorger à tour de rôle les seins et ne pas avoir de douleur. Hein. Donc maintenant, si avec juste en tétant juste un sein, tout se passe bien, votre bébé grossit bien et que tout va bien, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de danger.
Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre appel. J'ai sous les yeux un message arrivé sur le site Facebook de Priorité Santé. Il est très simple. Hein. C'est Ndeye Fatou à Dakar qui demande « Pourquoi a-t-on mal quand on allaite ? Est-ce que c'est normal de souffrir au moment de l'allaitement ?»
Non. Ce n'est pas normal. C'est qu'il faut vérifier un certain nombre de choses. Ça peut être sensible, par exemple, si le bébé, au moment où il accroche le mamelon, effectivement, ça peut être un petit peu sensible, mais au cours des tétés, les choses s'améliorent. Donc, ce n'est pas normal d'avoir mal. Ça ne fait pas mal l'allaitement. Et donc, si on a mal, il faut vérifier, être sûr qu'il n'y ait pas de problèmes locaux, comme des crevasses, par exemple, qui peuvent être douloureuses, ou une infection comme une lymphangite. Et il faut vérifier la position du bébé. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on a des problèmes de crevasses, des problèmes de douleurs, c'est que juste peut-être le bébé est mal positionné, prend mal le mamelon, c'est toute une technique, hein, prend mal le mamelon, et du coup, il tire hein, quand même sur ce mamelon, et ça peut entraîner des douleurs. Mais si l'enfant est bien positionné, que vous se lave bien le mamelon avant, après, etc., il n'y a pas de raison d'avoir mal. Ce n'est pas normal, il faut consulter.
Alors, Noélie, nouvelle question. Noélie est en ligne de Brazzaville, au Congo. Bonjour, Noélie.
Bonjour.
Votre témoignage, Noélie.
Bon, c'est sur les deux enfants. J'ai deux enfants, l'autre à 11 mois et l'autre à 2 mois. Comment je fais faire ? Est-ce qu'il faut les allaiter les deux ?
Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Vous allaitez les deux enfants ?
Oui, on continue. On arrête ou quoi ?
Docteur Béatrice Duberne, peut-être allaiter le plus jeune des deux ?
Oui, je pense que s'il y a à prioriser, en fait, ça dépend un peu de la croissance de vos enfants. C'est-à-dire, si les deux grossissent très bien avec cet allaitement, ça veut dire que ça leur convient. Maintenant, si le petit de 2 mois ne grossit pas trop, il semblerait que ce soit peu suffisant, en fait, le lait. À ce moment-là, la priorité, c'est d'allaiter celui de 2 mois. Le grand de 14 mois peut tout à fait être sevré et avoir d'autres sources de lait. Donc, voilà, tout dépend un petit peu de comment ça se passe et si c'est difficile pour vous. Hein, mais j'aurais tendance à dire d'arrêter d'allaiter celui de le plus grand et de prioriser le petit de 2 mois.
Noélie, vous avez déjà diversifié l'alimentation du plus grand des deux, celui qui a plus d'un an ?
Oui, déjà. Il prend le manioc.
Et le plus jeune, il grandit bien, il a une bonne croissance ?
Oui, il a une bonne croissance.
Après, c'est vous qui... Vraiment, là, c'est un choix familial. Hein. Si vos enfants se développent bien, vont très bien, ça veut dire qu'ils ont suffisamment de lait, les deux, grâce à la stimulation de la lactation. Et ça n'est pas une obligation d'arrêter d'allaiter le grand de 14 mois. Maintenant, si le petit montre des signes de mauvaise croissance, à ce moment-là, il faudra probablement prioriser l'allaitement du plus petit. Mais il n'y a pas de danger, pas d'obligation à arrêter d'allaiter le votre plus grand enfant.
Merci. Merci beaucoup, hein, Noélie, de nous avoir appelé. Vous étiez en ligne de Brazzaville pour conclure ce dossier. Un chiffre qui est assez spectaculaire. Il est publié par la revue médicale britannique The Lancet qui estime que 835 000 vies d'enfants sont sauvés, sont susceptibles d'être sauvés par l'allaitement maternel chaque année. Chiffre donc très impressionnant de 835 000 enfants qui sont donc éloignés de la malnutrition et des maladies infantiles mortelles. Bonjour docteur Jean-Marc Sen.
Bonjour Caroline.
Alors médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo, exceptionnellement hein, aujourd'hui au téléphone, on n'a pas le plaisir de vous avoir à côté de nous en studio, ça ne va pas nous empêcher de parler sport et santé. Et vous allez nous parler d'une affection du coude assez fréquente, hein, il s'agit de la tendinite, on l'appelle aussi tennis elbow. Alors Jean-Marc Sen, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un tennis elbow et comment le reconnaître ?
En effet, Caroline, le tennis elbow, c'est une douleur du coude hein, qui est très fréquente. C'est 1 à 3% des adultes hein, qui auront au moins une fois dans leur vie cette douleur. Alors, au départ, ça a été décrit chez les joueurs de tennis, hein, d'où le nom tennis elbow. Et puis, mais en fait, en termes de fréquence, ça touche surtout les professionnels hein, qui effectuent des tâches répétitives ou bien les personnes qui font beaucoup de bricolage. Alors, c'est une douleur qui se situe au niveau d'un petit relief osseux à la face externe du coude. Hein, on appelle ça l'épicondyle. Et on a une douleur qui évolue de façon aiguë ou chronique et qui peut diffuser jusque toute la face externe de l'avant-bras. Et là, à l'origine de tout ça, c'est des petites déchirures de tendon, du tendon qui s'insère sur ce relief osseux. Alors, au début, on a mal lorsqu'on joue et au tennis, par exemple, et puis petit à petit, la douleur augmente et devient gênante. Pour devenir, dans la vie courante, gêner la personne, serrer une main, déboucher une bouteille, ouvrir une porte devient vite intolérable.
Alors, quelles sont justement ces activités qui peuvent provoquer, causer ce tennis elbow ?
Eh ben, ça, Caroline, ça survient toujours après une sollicitation importante ou répétée du bras. Hein, c'est parce que c'est les muscles et les tendons là contrôlent les mouvements de la main et du poignet. Alors le fait de tenir vigoureusement une raquette, faire des flexions répétées du poignet, des gestes saccadés, va provoquer ce tennis elbow. Alors on dit souvent que c'est la tendinite du mauvais geste, du mauvais tennisman. Mais même chez un bon joueur, quelquefois, il y a des circonstances hein, qui peuvent favoriser son apparition. Par exemple, le fait de changer de raquette, de cordage, de surface peut favoriser cela, ou encore parce que en plus de faire du tennis, la personne a fait des travaux ménagers ou a pris certains médicaments qui fragilisent les tendons, et bien ce tennis elbow va apparaître. Chez le professionnel, d'une manière générale, c'est parce que le professionnel n'a pas eu le temps de récupérer après des travaux répétitifs, hein, s'il n'y a pas suffisamment de temps de repos. Et puis quelquefois aussi le fait de travailler au froid hein, peut favoriser cela, ou alors d'être exposé à des vibrations. Typiquement, hein, le fait d'utiliser un marteau, avoir une frappe énergique, va pouvoir favoriser l'apparition de ce tennis elbow.
Alors après les facteurs, la solution, comment ça se soigne, docteur Jean-Marc Sen, un tennis elbow ?
Eh bien, Caroline, pour réduire les symptômes, déjà on peut appliquer une poche de froid. Alors il faut bien protéger la peau, hein, mettre un petit linge, appliquer un sac de glace par exemple pour pas brûler cette peau, et puis alors aussi utiliser une pommade décontracturante hein, pour relâcher un petit peu les muscles, et puis bien identifier surtout les gestes qui sont à l'origine de la douleur, parce que un des éléments principaux du traitement, ça sera eh bien, de mettre au repos les muscles et les tendons atteints. Et puis, si ça ne suffit pas, évidemment, on pourra utiliser classiquement quelques soins médicaux. Alors, les antalgiques, les anti-inflammatoires, même s'il faut s'en méfier, parce que quelquefois, ça peut masquer la douleur et on peut forcer un petit peu trop. Infiltrer aussi, là aussi, ça peut avoir un effet positif parce que ça soulage, mais en même temps, ça peut fragiliser le tendon, hein, les corticoïdes peuvent faire ça. Et puis, la mésothérapie, qui est à ma préférence, à vrai dire, qui est de fait de poser dans la peau quelques médicaments qui vont aller traiter en profondeur le tendon. Puis, associé à cela, si ça ne suffit pas, il faudra faire de la kinésithérapie, hein, qui sera sur la base d'exercices musculaires, d'étirements, de massages tout profonds pour essayer de travailler ce tendon. Et puis enfin, si ça ne suffit toujours pas, et ça c'est assez rare, c'est moins de 10% des patients, et bien on pourra aller jusqu'à la chirurgie, mais ça c'est vraiment si la douleur est invalidante et persiste plus d'un an.
Alors, pour éviter la récidive, j'imagine qu'adapter son activité sportive ou professionnelle est absolument impératif.
Absolument, c'est la clé. Lorsque le tennis elbow est dû à sa pratique professionnelle, là, l'idée, ça sera justement de mettre du repos, donc ça sera un arrêt de travail. Alors, la durée dépendra d'abord du côté atteint, et puis savoir si vous êtes droitier ou gaucher, et puis le type d'emploi, évidemment, si on porte des charges lourdes, la possibilité d'adapter son poste, puis on peut même avoir à faire appel à son médecin du travail qui peut proposer une adaptation du poste en accord avec l'employeur. Pour les activités sportives, l'idée, ça sera de reprendre très progressivement. Au début du traitement médical, bah, il faut faire des activités qui ne sollicitent pas trop le serrage de la main, le fait de marcher, de courir, de faire de la natation, pourquoi pas même de la musculation, pour peu qu'on ne serre ni poignet ni haltère, et ça c'est formidable, ce sera une très bonne préparation physique. Et puis pour jouer au tennis, bah, il faudra revoir son placement, changer son cordage, le poids de la raquette, et renoncer éventuellement aux modifications qui ont précédé la blessure, si ça a été le cas. Et puis, en général, quand, pour reprendre la compétition, il faudra attendre au moins 4 à 6 mois. C'est rare que ce tennis elbow passe avant. Puis, une petite astuce, c'est de mettre un brassard sous le coude, parce que ça va détendre les muscles et réduire les contraintes qui s'appliquent justement sur cette insertion osseuse si douloureuse. Et puis, normalement, en suivant tous ces conseils, eh bien, nos auditeurs devraient pouvoir reprendre leur sport préféré.
Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, hein, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. On vous retrouve bien sûr mercredi prochain pour notre chronique sport dans Priorité Santé. À la semaine prochaine. Notre émission qui touche à sa fin, merci à notre invitée en studio, docteur Béatrice Duberne, pédiatre dans le service de nutrition pédiatrique à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Demain, dans Priorité Santé, vous retrouvez, je sais que vous l'attendez, le docteur Catherine Solano, sexologue, comme tous les premiers jeudis du mois. Priorité spéciale, séduction. Et vous posez vos questions, 33 1 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.